Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici donc ensemble dans cette fin de semaine pour terminer la lecture du Gargantua de François Rabelais. Comment fut bâtie et dotée l'abbaye des Télémites? Pour la construction et l'aménagement de l'abbaye, Gargantua vit verser comptant 2 731 moutons à la grande laine. Et pour chaque année, jusqu'à ce que tout soit achevé, il assigna, pris sur la recette de la dive, 1 669 000 écus au soleil et autant à l'étoile poussinière. Pour sa fondation et son entretien, il fit don à titre perpétuel de 2 369 514 nobles à la rose de rente foncière, garantie, amortie et payable chaque année à la porte de l'abbaye. Et il leur délivra les actes y afférents. On la bâtit en hexagone pour les structures de telle sorte qu'à chaque angle s'élevait une grosse tour ronde mesurant 60 pas de diamètre. Elles étaient toutes semblables par leur taille et leur configuration. La Loire coulait au nord et sur sa rive se dressait une des tours baptisée Arctique. La suivante, regardant vers l'est, était appelée Bel-Air. L'autre, en continuant, Orientale, l'autre après Antarctique, l'autre ensuite Occidentale et la dernière Glaciale. Il y avait entre les tours un espace de 312 pas. Tout l'édifice comportait 6 étages, en comptant les caves sous terre. Le second était voûté en anse de panier et tout le reste était plaqué de gypse de Flandre, sculpté en cul-de-lampe. Le toit, couvert d'ardoises fines, se terminait par un faîtage de plomb représentant de petits personnages et animaux bien assortis et dorés. Les gouttières saillaient du mur entre les croisées, peintes en diagonale d'or et d'azur jusqu'à terre, où elles aboutissaient à de grands chéneaux qui tous conduisaient à la rivière en contrebas du logis. Celui-ci était 100 fois plus magnifique que Bonnivet, Chambord ou Chantilly, car il comptait 9 332 appartements, chacun comportant arrière-chambre, cabinet, garde-robe, oratoire et vestibule donnant sur une grande salle. Entre deux tours, au milieu du corps de logis, se trouvait un escalier à vis interrompu, dont les marches, parties en porphyre, parties en pierre de Numidie, parties en serpentine, étaient longues de 22 pieds. Leur épaisseur était de 3 doigts. Et on comptait 12 marches entre 2 paliers. À chaque palier, il y avait 2 belles arcades à l'antique par lesquelles entrait la lumière et qui donnaient accès à une loggia à claire-voie de la même largeur que la vis. Celle-ci montait jusqu'au-dessus du toit et là se terminait par un pavillon. Par cette vis, on accédait de chaque côté à une grande salle et des salles aux appartements. Depuis la tour arctique jusqu'à la tour glaciale régnaient les grandes bibliothèques de grec, latin, hébreu, français, italien et espagnol, réparties sur les différents étages selon les langues. Il y avait au centre une merveilleuse vis, où l'on entrait depuis l'extérieur du logis par un arceau large de 6 toises. Ces dimensions avaient été harmonieusement calculées de façon à permettre à 6 hommes d'armes, la lance à la cuisse, de monter ensemble de front jusqu'au haut du bâtiment. Depuis la tour orientale jusqu'à la tour antarctique s'ouvraient de belles et grandes galeries, toutes ornées de peintures représentant les prouesses antiques et les descriptions détaillées de la terre. Au milieu Il y avait une montée et une porte semblables à celle que nous avons mentionnée du côté de la rivière. Comment était le manoir des Télémites ? Au milieu de la cour intérieure, il y avait une magnifique fontaine de bel albâtre. Au-dessus, les trois grâces, portant des cornes d'abondance, rejetaient l'eau par les mamelles, la bouche, les oreilles, les yeux et autres orifices du corps. La partie intérieure du logis, située au-dessus de cette cour, était portée par de gros piliers de chalcédoine et de porphyre et de beaux arcs à l'antique qui délimitaient de belles galeries longues et vastes, ornées de peintures et de cornes de cerf, licornes et rhinocéros, de dents d'hippopotames ou d'éléphants et d'autres intéressantes décorations. Les appartements des dames allaient de la tour arctique à la porte antarctique. Les hommes occupaient le reste. En face des appartements des dames, il y avait, pour les distraire, entre les deux premières tours et en dehors, les lys, l'hippodrome, le théâtre et les bains, avec les mirifiques piscines à trois niveaux, bien pourvues de tout l'équipement nécessaire et d'eau de mire en abondance. Le long de la rivière, c'était le beau jardin d'agrément. En son milieu, le beau labyrinthe. Entre les deux autres tours, les jeux de paume et de ballon. Du côté de la tour glaciale, le verger, planté de toute espèce d'arbres fruitiers, tous disposés en quinconce. Au bout s'étendait le grand parc, foisonnant de toutes sortes de bêtes sauvages. Entre la troisième paire de tours se trouvaient les buttes, pour tirer à l'arquebuse, à l'arc et à l'arbalète. À l'extérieur de la tour occidentale, les communs à un seul étage. Au-delà des communs, les écuries. Devant eux, la fauconnerie qui était régie par les autourviers bien experts en l'art et fournie chaque année par les Crétois, les Vénitiens et les Sarmates, de toutes sortes d'oiseaux de pure race, aigles, gerfaux, autours, sacres, laniers, faucons, éperviers, émerillons et autres, si bien dressés et domestiqués qu'en partant du château pour voler aux champs, ils prenaient tout ce qu'ils rencontraient. Le chenil était un peu plus loin, en allant vers le parc. Toutes les salles, les chambres et les cabinets étaient tapissés de façon diverse suivant la saison de l'année. Tout le carrelage était recouvert de draps verts. Les lits étaient faits de broderies. Dans chaque arrière-chambre, il y avait un miroir de cristal enchâssé d'or fin et garni de perles tout autour, d'une taille telle qu'il pouvait faire voir vraiment toute la personne. Aux portes des appartements des dames se tenaient les parfumeurs et les coiffeurs. Entre leurs mains passaient les hommes quand ils rendaient visite aux dames, et ils pourvoyaient chaque matin les chambres des dames d'eau de rose, d'eau de fleurs d'oranger et d'eau de myrrhe. À chacune, ils apportaient la précieuse cassolette toute fumante de sortes de vapeurs aromatiques. Comment étaient vêtus les religieux et religieuses de Télème ? Les dames, au premier temps de la fondation, s'habillaient selon leur plaisir et leur goût. Depuis, et de leur plein gré, la réforme suivante a été faite. Elles portaient des bas d'écarlate ou de cochenille qui montaient au-dessus du genou, de trois doigts exactement, et cette lisière était de belles broderies et de guipures. Les jarretières étaient de la couleur de leurs bracelets, et elle prenait le genou par en dessous et par en dessus. Les souliers, escarpins et pantoufles étaient en velours cramoisi, rouge ou violet, découpés en barbe d'écrevisse. Par-dessus leur chemise, elle revêtait la belle basquine d'un beau camelot de soie. Elle passait sur celle-ci le vertugadin de taffetas blanc, rouge, fauve, gris, etc. Par-dessus, la cotte de taffetas d'argent brodée d'or fin et d'arabesques faite à l'aiguille, ou selon que bon leur semblait, et suivant l'air du temps, de satin, de damas, de velours orangé, fauve, vert, cendré, bleu, jaune clair, rouge, brillant, blanc, de drap d'or, de toile d'argent, de canetille, de broderie, suivant les fêtes. Les robes étaient, selon la saison, de toile d'or à frisure d'argent, de satin rouge couvert de conetilles d'or, de taffetas blanc, bleu, noir, fauve, de serge de soie, de camelot de soie, de velours, de drap d'argent, de toile d'argent, de fil d'or, de velours ou de satin, avec fil d'or apparent, dessinant divers motifs. En été, certains jours, elle portait au lieu de robes de belles chasubles, avec les mêmes décorations ou quelques surtout amoresques de velours violet à frisure d'or sur canetille d'argent ou à cordelière d'or garnies aux coutures de petites perles indiennes. Et toujours le beau panache assorti à la couleur des manchons et bien garni de pampilles d'or. En hiver, c'était des robes de taffetas dans les couleurs susdites, fourrées de loup-cervier, de genêtes noires, de martre de calabre, de zibeline et d'autres fourrures précieuses. Les chapelets, les bagues, les chaînes, les colliers étaient en fine pierrerie. Escarboucles, rubis, balais, diamants, saphirs, émeraudes, turquoises, grenats, agates et unions hors de pair. Le type de coiffure variait avec le temps. En hiver à la française, au printemps à l'espagnole, en l'été à la toscane, sauf les jours de fête et les dimanches où elle portait la coiffure française, parce qu'elle est plus décente et sied mieux à la retenue des dames. Les hommes étaient habillés de leur façon, bas de chausses de lainage ou de serge drapé, d'écarlate, de cochenille blanc ou noir, hauts de chausses de velours, des mêmes couleurs ou dans les mêmes tons brodés et découpés à leur idée, pourpoints de drap d'or, d'argent, de velours, de satin, de damas, de taffetas, toujours dans les mêmes couleurs, découpés, brodés et passementés à la pointe de l'élégance, aiguillettes de soie dans les mêmes teintes. Ferrets en or bien émaillés, sais et chamars de drap ou de toile d'or, de drap d'argent, de velours rebrodé à plaisir, robes aussi précieuses que celles des dames. Ceinture de soie aux couleurs du pourpoint. Chacun une belle épée au côté, poignée dorée, fourreau de velours de la couleur des chausses, bout d'or et d'orfèvrerie. Le poignard de même. Bonnet de velours noir garni de force boutons et glands d'or, au-dessus la plume blanche. Joliment divisées par des paillettes d'or, au bout desquelles pendaient en guise de pampilles, de beaux rubis, des émeraudes, etc. Mais une telle sympathie régnait entre les hommes et les femmes que chaque jour, ils étaient vêtus des mêmes parures. Et pour ne pas y manquer, certains gentilshommes étaient préposés pour dire chaque matin aux messieurs quelle livrée les dames souhaitaient porter ce jour-là, car tout se faisait d'après la volonté des dames. Ne pensez pas, comme ces femmes perdissent de leur temps à se vêtir si élégamment ni à se parer si richement, car les maîtres des garde-robes tenaient chaque matin les habits tout prêts. Les femmes de chambre étaient si expertes qu'en un instant les dames étaient prêtes habillées de pied en cap. Et pour se procurer ces vêtements plus commodément, il y avait près du bois de Thélème un grand corps de bâtiment long d'une demi-lieue bien clair et bien aménagé dans lequel demeuraient les orfèvres, les lapidaires, les brodeurs, les tailleurs, les fileurs d'or, les veloutiers, les tapissiers et les hôtelissiers. Chacun y œuvrait à son métier uniquement pour le service de nos religieux et religieuses. Ils étaient fournis en matières premières et en étoffes par les soins du seigneur Nausiclète, qui leur envoyait chaque année des îles Perlas et Cannibale, 7 navires chargés de lingots d'or, de soie brute, de perles et de pierreries. Si quelques perles avaient tendance à vieillir et perdaient leur blancheur native, on les rajeunissait artificiellement en les donnant à manger à quelques beaux coqs, comme on donne leur cure aux faucons.
Quand l'autre jour, l'on vint me prévenir que ma maîtresse avait changé d'amis, tout aussi aussitôt, je m'en fus la trouver. Jolie Nanon, changeras-tu d'amitié? Tout aussitôt, je m'en fus la trouver. Jolie Nanon, changeras-tu d'amitié? Jolie Nanon, si j'avais pourtant su que nos amours n'auraient pas parvenu, je n'aurais pas dépensé tant d'argent. Jolie Nanon, avec tous tes parents, je n'aurais pas dépensé tant de louis. Jolie Nanon, avec tous tes amis. Jolie Nanon, si j'ai perdu mon temps, j'y ai passé d'agréables moments. J'y ai passé des agréables nuits. Jolie Nanon, sur le bord de ton lit, j'y ai passé des agréables jours. Jolie Nanon, à t'y faire l'amour. Si tu l'as fait, c'est que tu l'as bien voulu. Combien de fois je te l'ai défendu? Combien de fois je te l'ai dit souvent? Retire-toi, galant, tu perds ton temps. Combien de fois je te l'ai dit par jour? Retire-toi, à y faire tes amours. J'ai fait l'amour dans un joli quartier, sans pour cela n'y avoir rien gagné. J'ai fait l'amour, j'ai bien perdu mes pas. Pour une blonde là qui ne m'aime pas, j'ai fait l'amour, j'ai bien perdu mes pas. Pour une blonde là qui ne m'aime pas, jolie Nanon, ta beauté s'en ira comme la rose quand elle défleurira. Tu chercheras partout qui t'aimera. Jolie Nanon, tu ne trouveras pas. Tu chercheras partout qui t'aimera. Jolie Nanon, tu ne trouveras pas. Tu chercheras partout qui t'aimera. Jolie Nanon, tu ne trouveras pas.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Nous revenons après ce moment musical à notre Gargantua de François Rabelais que nous allons terminer ce soir. Comment était régler le mode de vie des Télémites. Toute leur vie était régie, non par des lois, des statuts ou des règles, mais selon leur volonté et leur libre arbitre. Ils sortaient du lit quand bon leur semblait, buvaient, mangeaient, travaillaient, dormaient, quand le désir leur en venait. Nul ne les éveillait, nul ne les obligeait à boire, ni à manger, ni à faire quoi que ce soit. Ainsi en avait décidé Gargantua. Et toutes leurs règles tenaient en cette clause « Fais ce que voudra ». Parce que les gens libres, bien nés, bien éduqués, vivant en bonne société, ont naturellement un instinct, un aiguillon, qu'ils appellent honneur, et qui les pousse toujours à agir vertueusement et les éloigne du vice. Quand une vie les contraignantes suggestions les abaisse et les asservit, pour déposer et briser le joug de servitude, ils détournent ce noble sentiment qui les inclinait librement vers la vertu. Car c'est toujours ce qui est défendu que nous entreprenons, et c'est ce qu'on nous refuse que nous convoitons. Grâce à cette liberté, ils rivalisèrent d'efforts pour faire tous ce qu'ils voyaient plaire à un seul. Si l'un ou l'autre d'entre eux disait « buvons », tous buvaient. Si on disait « jouons », tous jouaient. Si on disait « allons nous ébattre au champ », tous y allaient. Si c'était pour chasser au vol ou à court, les dames montées sur de belles haquenées avec leurs fiers palefrois portaient chacune sur leur poing joliment ganté un épervier, un lanier, un émerillon. Les hommes portaient les autres oiseaux. Ils étaient si bien éduqués qu'il n'y avait aucun ou aucune d'entre eux qui ne sût lire, écrire, chanter, jouer d'instruments de musique, parler 5 ou 6 langues et s'en servir pour composer en vers aussi bien qu'en prose. Jamais on ne vit des chevaliers si preux, si nobles, si habiles à pied comme à cheval, si vigoureux, si vifs, et maniant si bien toutes les armes que ceux qui se trouvaient là. Jamais on ne vit des dames si élégantes, si mignonnes, moins ennuyeuses, plus habiles de leurs doigts à tirer l'aiguille et à s'adonner à toute activité convenant à une femme noble et libre que celle qui était là. Pour ces raisons, quand le temps était venu que l'un des Télémites voulut sortir de l'abbaye, soit à la demande de ses parents, soit pour d'autres motifs, il emmenait avec lui une des dames, celle qui l'avait choisie pour chevalier servant, et ils étaient mariés ensemble. Et s'ils avaient bien vécu à Télème en affectueuse amitié, ils cultivaient encore mieux cette vertu dans le mariage. Leur amour mutuel était aussi fort à la fin de leur jour qu'au premier temps de leur noce. Je ne veux pas oublier de vous rapporter une énigme que l'on trouva en creusant les fonditions de la... Je ne veux pas oublier de vous rapporter une énigme que l'on trouva en creusant les fondations de l'abbaye sur une grande plaque de bronze. La voici telle qu'elle était. Énigme en prophétie. Pauvres humains qui le bonheur attendaient, haut les cœurs, et mes paroles écoutées. S'il est permis de croire fermement que par les astres qui sont au firmament, l'esprit humain puisse de lui-même parvenir à prophétiser les choses à venir, ou si l'on peut, par une divine puissance du sort futur avoir connaissance, au point de sûrement conjecturer du lointain avenir le cours et la destinée. Je fais savoir à qui voudra l'entendre que l'hiver prochain, sans plus attendre, et même plus tôt en ce lieu où nous sommes, il surgira une race d'hommes qui, lassés du repos, dégoûtés de ne rien faire, iront d'un libre pas et en pleine lumière pousser les gens de toutes conditions à s'affronter en rivales factions. Et si l'on peut les croire et les écouter, quoi qu'ils doivent advenir, quoi qu'ils doivent en coûter, ils feront entrer en conflit visiblement les amis entre eux et les proches parents. Le fils effronté ne craindra point la honte amère de se dresser contre son propre père. Même les grands, de hauts lieux sortis par leurs sujets, se verront assaillis, et les devoirs d'honneur et de déférence perdront alors toute valeur et tout sens. Car on dira que chacun à son tour doit s'avancer, puis faire demi-tour. À ce propos, il y aura tant de mêlées, tant de combats, de venues et d'allées, que nulle histoire relatant grande merveille ne fait allusion à une agitation pareille. On pourra voir alors maint homme de valeur poussé par l'aiguillon de jeunesse et l'ardeur accordant trop de foi à cet appel violent mourir en sa fleur et vivre peu de temps. Et nul ne pourra délaisser ce labeur une fois qu'il y aura mis tout son cœur, sans avoir empli par querelle et débat le ciel de tumulte et la terre de pas. C'est alors qu'auront la même autorité hommes sans foi et gens de vérité, car tous adopteront les positions passionnées de la foule ignorante, insensée. Le plus lourdeau sera choisi pour juge. Ô dévastateur et pénible déluge! Je dis déluge avec de bonnes raisons, car ces épreuves ne seront plus de saison, et la terre n'en aura délivrance que quand jailliront en abondance de soudaines eaux, dont les mieux trempés, surpris en combattant, se verront inondés. Et ce sera bien fait, car à ces joutes occupées, leur cœur n'aura pas su épargner ces troupeaux d'innocents animaux, que de leurs nerfs et de leurs vils boyaux, ils ne soient pas faits aux dieux sacrifices, mais objets qui aux mortels rendent service. Et maintenant, je vous laisse à penser comment tout cela pourra se passer, et quel repos, dans une crise si profonde, pourra trouver le corps de la machine ronde. Les plus heureux qui le plus d'elle retireront, de ne la perdre ni la gâcher s'efforceront et tâcheront de plus d'une manière de la détenir et de la garder prisonnière, si bien que le pauvre, déchiqueté, n'aura recours qu'auprès de qui l'aura créé. Et pour accroître la tristesse de son destin, le clair soleil, avant que d'être à son déclin, laissera tomber l'obscurité sur elle, plus dense qu'en éclipse ou qu'en nuit naturelle. Elle perdra d'un coup sa liberté et sa faveur due au ciel avec sa clarté. Ou pour le moins, elle demeurera isolée, mais avant cette chute désolée, longtemps, elle aura manifesté clairement un violent et si grand tremblement que l'Etna ne fut pas tant bouleversé quand il fut sur un fils de titan jeté. Et c'est moins brusque qu'il faut se présenter le mouvement que fit Ischia quand Typhée si fort se courroussa que dans la mer les monts il précipita. Ainsi, elle sera mise en peu de temps en triste état, et si souvent cédée que même ceux qui conquisent l'auront à leurs successeurs tenir la laisseront. Alors se rapproche le moment propice pour mettre un terme à ce long exercice. Car les grandes eaux dont nous avons parlé pousseront chacun à se retirer. Toutefois, avant de se séparer dans l'air, on pourra nettement remarquer une grande flamme, dont le souffle brûlant mettra fin à l'inondation et à l'affrontement. Au reste, après la conclusion de ces événements, les élus retrouveront joyeusement tous leurs biens et la manne que le ciel dispense, et de plus, honorés d'une récompense, seront enrichis. Et les autres, à la fin, se retrouveront tout nus. Cette raison est donnée enfin pour que ces épreuves ainsi terminées, chacun ait le sort qui lui était destiné. Voilà les conventions. Il faut révérer celui qui jusqu'à la fin pourra persévérer. Quand la lecture de ce document fut achevée, Gargantua poussa un profond soupir et dit à ceux qui se trouvaient là « Ce n'est pas d'aujourd'hui que les gens ramenés à la foi en l'Évangile sont persécutés, mais bienheureux celui qui ne faillira pas et tendra toujours au but que Dieu nous a fixé par son cher Fils sans en être distrait ni détourné par les tentations de la chair. » Le moine dit « Dans votre esprit, que pensez-vous que cette énigme désigne et représente ?»«
Ben quoi ?» dit Gargantua. « C'est le cours et la persistance de la vérité divine. »
Par saint Godran, dit le moine, « ce n'est pas mon interprétation. » Le style est celui de Merlin, le prophète. Trouvez-y des allégories et des significations aussi profondes que vous voudrez et ratiocinez là-dessus tant qu'il vous plaira, vous et tout le monde. Pour ma part, je pense qu'aucun autre sens n'y est enclos qu'une description du jeu de paume en termes obscurs. Ce qui pousse les gens à s'affronter, ce sont les organisateurs de rencontres qui sont en général des amis. Après les deux premiers services, celui qui était sur le terrain en sort et un autre y entre. On se fie au premier qui dit si la balle est passée en dessus ou en dessous du filet. Les os, ce sont les sueurs. Les cordes des raquettes sont faites de boyaux de mouton ou de chèvre. La machine ronde, c'est la pelote ou la balle. Après la partie, on se réconforte devant un feu clair et l'on change de chemise, puis on banquette volontiers. Mais ceux qui ont gagné le font de meilleur cœur que les autres. Et grand cher. Ce sont les derniers mots du Gargantua de François Rabelais, que nous avons terminé ensemble ce soir. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir et à la semaine prochaine.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.